Vous dites que la division n'a jamais été aussi grande que sous Kagame,
oui.
La division du peuple rwandais, mais vous ne pouvez quand même pas dénier à Kagame le fait d'avoir fait quand même certains efforts pour que le peuple rwandais s'unifie. Bon, il y a le clivage au Hutu-Tutsi qui est déclaré plus ou moins illégal. Il a pris une série de mesures comme ça pour raffermir l'identité rwandaise. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec ça ?
Pas du tout. À moins que vous me donniez des exemples pour me convaincre, vous qui défendez ce qu'il a fait. Mais donnez un exemple.
Je ne défends pas ce qu'il a fait. Ouais. Il dit les gens maintenant.
Je peux peut-être.
Au Rwanda, bon, il y a une coexistence qui est là. Il y a un clivage qui officiellement n'est plus là. Mais vous, vous dites que la division du peuple rwandais n'a jamais été aussi grande que maintenant.
Oui, oui.
Si vous allez au Rwanda, bon, à quoi est-ce qu'on peut le voir ?
Oui, oui, je vais vous donner. Il va peut-être me compléter. Avant que je n'oublie parce que ma mémoire n'est pas aussi vive que la sienne. De toute façon, je vais vous donner un exemple. Très concret. J'ai étudié, c'était dans une même université, où disons, nous étions des boursiers canadiens. Je connais M. Bichakungiri qui a été à l'école polytechnique de Montréal. Il a terminé brillamment ce monsieur-là. Il a eu un fils unique. C'était Hutu. Hein. Alors là, son fils, c'est copinage, je vais dire, avec une fille Tutsi. Et par après, qu'est-ce qui s'est passé? La fille est tombée enceinte. La famille a forcé à la fille de... C'est quoi ça? D'avorter? Forcé! Sinon, on t'étrangle avec ton copain. La fille n'a pas voulu. Ce qu'ils ont fait, c'est que lui et cette fille ont quitté le pays. Ils sont venus vivre maintenant aux États-Unis. Je n'avais jamais vu de tel cas. Ce que vous parlez, c'est dont on peut parler, c'est de la politique, bien entendu. Quand on parle de la politique, Kagame, pour l'Occident, a fait beaucoup d'efforts. Et lui-même le dit, je vis avec des génocidaires. C'est très important. Quand vous entendez un président qui utilise ce langage, n'est-ce pas? Mais nous, nous sommes Rwandais, nous savons ce qu'il veut dire. Quand il dit des génocidaires, vous comprenez-moi, hein, ce sera justement qui naissent avec des gènes de génocidaires. Puis, tenez-vous bien, M. Kagame n'est pas Tutsi. Les Barundis, ce sont eux qui définissent bien les Tutsi. Kagame n'est pas Tutsi. Kagame, c'est un noble. Il est des abégas, il est au-dessus des Tutsi. Les Tutsi, ce sont des bergers, des pauvres gens qui, le matin, doivent traire les vaches, puis chanter le nom des vaches le soir. Il y a eu une confusion chez les anthropologues qui sont arrivés les premiers à la cour du roi. Qui ont vu les gens là, qui sont des aristocrates à la cour du roi, directement ils ont dit que ce sont des Tutsis. Et par après, ils ont mesuré le nez et puis le nombre de vaches. Donc, pour vous dire la vérité, depuis le temps où le premier Européen a mis le pied au Rwanda jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de séparation entre Hutu et Tutsi comme ce n'est le cas aujourd'hui. Franchement. Ce qu'on vous dit. Oui, Kagame a fait, pour vous, Kagame a fait des miracles. Les Hutus ont pris des machettes sur les villages, ils ont entrecoupé les Tutsis, etc., etc. Et moi, ce qui m'agace, c'est que ceux qui ont fait dans des enquêtes sur ce qu'ont fait les Hutus n'ont jamais fait des enquêtes pour savoir ce qu'ont fait les Tutsis, venus de l'Ouganda, je souligne. Dans les préfectures de Byumba, de Ruhengeri, j'en passe. Comment pouvez-vous expliquer qu'un million de citoyens presque, est venu habiter à 6 km de la ville de Kigali en 1993. Pourquoi? Comment expliquez-vous? Certains disaient, oui, ils ont voté avec leur pimé. Les femmes. Éventrées, on appelle en français. Oh, mais mon Dieu! Vous ne pouvez pas, vous, comprendre ce que ces gens ont fait. Des exemples, j'en ai. Des gens qui ont participé à des massacres. Enfoncer des clous de combien de centimètres jusqu'ici. Les gens meurent dans la maison et quand vous ouvrez, vous voyez des cadavres, vous ne pouvez plus entrer. Ils ont commencé à fuir vers Kigali. Et vous pensez que ces gens oublient facilement tout ce qui s'est fait. Donc, pour répondre à votre question, la division est plutôt profonde, à des niveaux. Entre les Rwandais qui étaient à l'intérieur avec les Hutus et les Tutsis avant la guerre, et à un autre niveau, entre les Tutsis et les Tutsis, les Tutsis qui étaient à l'intérieur du pays, et ceux qui sont venus de l'Ouganda. Les divisions sont également profondes. Or, le Rwanda, moi, franchement, je vous parle sans allier une pensée et sans croire à un avantage quel qu'il soit. Moi, je n'ai pas été un Hutu minable. Mon père n'a jamais cultivé ni travaillé chez qui que ce soit chez les Tutsis. Non. Il était supérieur plus que certains Tutsis que je connaisse. Donc, je vous parle comme j'entends les choses, moi. C'est plus profond. Et je vous demanderai d'y aller poser des questions discrètement. Parce qu'au Rwanda, on ne parle pas aujourd'hui. Parce qu'il y a toujours la photo du président et ils ont peur de vous parler à l'intérieur de la maison parce qu'ils pensent que le président entend. Oui. Donc, fais attention. Mais c'est plus profond. Et il peut... Je m'excuse, je parlerai beaucoup. Je vais lui donner... Vous voyez comment il parle correctement. Il va vous expliquer.
Non, je vais juste donner un exemple pour vraiment comprendre l'exacerbation de ces divisions. Il y a actuellement au Rwanda un programme qui s'appelle Ndumunya Rwanda. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc c'est un programme, une théorie, c'est pas une loi, mais qui voudrait que les Hutus demandent pardon pour les crimes commis par leurs semblables.
C'est ça.
Mais après ça, comment est-ce qu'on peut dire qu'il a pacifié les rapports entre les Hutus et les Tutsis? Comment est-ce qu'on peut dire ça? Parce qu'au début, il est venu en disant... voilà, il n'y a pas de Hutu, il n'y a pas de Tutsi, on supprime ça dans le cadre d'identité, on n'en parle plus, le premier résolu, il n'y a que des Rwandais. Et actuellement, il dit, mais les Hutus, ils doivent demander pardon quand même pour les crimes comme pour les semblables. Mais ça veut dire quoi ça? C'est ça la pacification des rapports entre les gens au Rwanda? Non, pas du tout. C'est un pouvoir machiavélique qui savent dire ce qu'ils doivent dire, surtout quand ils doivent s'exprimer devant l'extérieur. Ils ont inventé, ils se disent techniciens du mensonge. Ils manipulent tout, ils manipulent les rapports du FMI. Ils manipulent tout, ils manipulent le langage. Ils ont réussi à imposer au monde entier une vision, en payant les cabinets de communication, les grands cabinets américains de communication. Ils ont réussi à imposer un peu leur point de vue, mais en réalité, ce qui se passe, en réalité, ça n'a rien à voir. Quand c'est le président lui-même qui soutient une initiative comme ça, où les enfants qui sont nés même après le génocide doivent demander pardon pour les crimes commis par leurs semblables, vous imaginez ça?